Les dessous de l'Infox. François Bernard.
Bonsoir et merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale.
Les dessous de l'Infox.
Il y a tout juste un an, les États-Unis se réveillaient d'un cauchemar bien réel. La veille, le Capitole, emblème de sa démocratie parlementaire, avait été envahi, saccagé par des manifestants en colère. Une colère largement provoquée par de fausses informations propagées par le président d'alors, Donald Trump, refusant sa défaite électorale, qui affirmait que le scrutin était frauduleux et qu'il fallait empêcher le Congrès d'avaliser la victoire de Joe Biden. La désinformation qui a mené à ces événements tragiques continue d'être colportée par les mêmes sites un an plus tard. On en parlera avec Chine Labbé, elle est la rédactrice en chef Europe de NewsGuard, c'est un site de surveillance de la désinformation sur Internet qui vient de publier un rapport justement sur la persistance de la désinformation relative à l'élection présidentielle américaine. On en parlera aussi avec Sophie Malibaud qui consacre sa chronique aux répercussions de ces événements du Capitole le 6 janvier 2021. On évoquera une vidéo très partagée qui utilise de vieilles photos de Bernard-Henri Lévy au Darfour, qui prétend le montrer aux côtés de djihadistes au Mali. C'est un faux grossier, vérification faite par Marin Lefebvre, journaliste à l'AFP Factuel. Mais tout de suite, la chronique. Bonsoir Sophie Malibaud.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Un an après les événements qui ont conduit des centaines de manifestants à envahir le Capitole à Washington, la société américaine continue de se diviser au sujet de ce qui s'est réellement passé ce 6 janvier 2020. Au-delà d'une différence de perception sur les intentions de la foule ce jour-là, les soutiens les plus inconditionnels de Donald Trump perpétuent un narratif, Sophie, totalement déconnecté de la réalité.
Oui, alors même si une majorité de citoyens ont désapprouvé l'assaut contre le Capitole, certains refusent toujours d'admettre ce que les images ont pourtant montré, une tentative insurrectionnelle tournant à l'émeute. La presse américaine a diffusé cette semaine une série de sondages. À en croire l'une de ces enquêtes, près d'un Américain sur cinq s'accroche au scénario de l'attaque sous faux drapeau. Autrement dit, selon eux, les violences n'auraient pas été commises par des partisans de Trump, mais par des militants antifa, des antifascistes infiltrés dans la marche qui visait à empêcher la certification des résultats de l'élection par le Congrès. Certains dénoncent une machination du FBI. Des sites complotistes comme le Getaway Pundit ont fait circuler le récit selon lequel le FBI avait tout planifié pour donner au Congrès un prétexte afin d'interdire le port des armes à feu, véritable obsession des ultra-conservateurs.
Mais qu'est-ce qui permet d'affirmer que cette version des faits est fausse ?
En réalité, les preuves ne manquent pas sur Internet. Journalistes, enquêteurs, services de renseignement ont pu mettre la main sur énormément d'éléments restés disponibles sur les réseaux, car nombre d'émeutiers se sont vantés d'avoir participé à cette attaque du Capitole. Ils y ont d'ailleurs été encouragés par des représentants républicains partageant le même déni, comme par exemple le sénateur Andrew Clyde, qui déclarait lors d'une audition au mois de mai qu'il n'y avait pas eu d'émeute, qu'on avait plutôt assisté à une promenade touristique. Mais personne ne conteste pourtant le bilan de 5 morts et une bonne centaine de blessés et le fait que le cœur battant de la démocratie américaine a été saccagé ce jour-là.
Comment expliquer alors le succès de ces thèses complotistes malgré les nombreux éléments donc qui prouvent qu'elles sont fausses ?
Alors, ce qui conforte les partisans de Trump dans ce délire conspirationniste, c'est que l'ancien président continue de propager la thèse de l'élection volée. Sa stratégie de reconquête du pouvoir consiste à instiller le doute vis-à-vis des institutions, les élections et la justice, puisque tous les recours déposés pour contester l'issue du vote ont été déboutés par les juges, dont certains nommés par Donald Trump lui-même. Alors face à la foule le 6 janvier, on s'en souvient, l'ancien président avait incité à la marche sur le Capitole, ajoutant « vous ne pouvez pas reprendre votre pays en étant faible ». Puis il avait mis des heures avant de leur demander de rentrer chez eux. Si bien qu'aujourd'hui, nombre d'entre eux estiment qu'ils étaient dans leur bon droit en cherchant à interrompre le processus électoral par la force. Rien d'étonnant à ce qu'ils tentent aujourd'hui de réécrire l'histoire.
Et cela conforte l'idée que la démocratie américaine est désormais en danger.
Oui, car le fait de ne pas pouvoir s'entendre, ne serait-ce que sur le récit de ce qui s'est passé le 6 janvier 2022, continue d'accentuer la polarisation de la société américaine. À quelques exceptions près, les deux camps ne se parlent plus, y compris sur les réseaux sociaux, car ceux que les grandes plateformes comme Twitter ont exclus se retrouvent entre eux sur d'autres réseaux où ils entretiennent le récit d'une réalité alternative et le délire de persécution.
Les dessous de l'Infox.
Merci Sophie Malibaud, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine François.
On le voit, Donald Trump n'a jamais reconnu sa défaite à l'élection présidentielle qu'il a privée d'un second mandat en 2020. Il proclame toujours que des fraudes ont entaché le scrutin et ses partisans reprennent sans répit cette fausse information. L'Infox, selon laquelle l'élection américaine est illégitime, se propage en Europe. Les résultats des futures élections sont-ils menacés d'être contestés par de fausses allégations de fraude ?
On en parle.
On en parle avec Chine Labbé, qui est rédactrice en chef Europe de NewsGuard. NewsGuard spécialisée dans la surveillance de la désinformation sur Internet. Bonsoir Chine Labbé.
Bonsoir.
Alors NewsGuard vient de publier un rapport sur donc, la persistance de la désinformation relative à l'élection présidentielle américaine. Votre étude constate que les fausses allégations de Donald Trump pour refuser sa défaite continuent d'être largement propagées, n'est-ce pas ?
Oui. Alors en fait, le jour de l'élection américaine en novembre 2020, on avait commencé à recenser les sites qui diffusaient de fausses informations sur le scrutin. Des infox dont on sait qu'elles ont mené à l'émeute du 6 janvier 2021. Et pour l'anniversaire de cet événement, on a décidé de reprendre cette liste de 113 sites américains et de se poser cette question. Est-ce qu'ils continuent aujourd'hui, plus d'un an après l'élection de Joe Biden, à diffuser de fausses informations sur l'élection de 2020, dont il faut rappeler qu'elle est considérée comme l'élection la plus sûre de l'histoire des États-Unis. Donc on a regardé les articles qui ont été publiés sur ces sites entre septembre et décembre 2021 et le résultat est assez terrifiant puisqu'on a constaté que 81% de ces sites avaient continué de diffuser de fausses informations sur l'élection et aussi sur l'attaque du 6 janvier contre le Capitole. Donc concrètement, ça veut dire que la très vaste majorité des sites qui ont contribué à faire naître, à faire vivre et à faire prospérer le récit selon lequel le processus électoral n'était pas légitime, eh bien persiste et que ce récit qui est toujours, comme vous le disiez, mis en avant par Donald Trump, il peut compter sur un vaste réseau de sites de mésinformation qui s'en font l'écho.
L'autre information surprenante de ce rapport, c'est que cette désinformation continue d'être financée par l'argent de la publicité. Alors, on a déjà parlé dans cette émission avec vous d'ailleurs. On va rappeler quand même à nos auditeurs comment il se fait que des marques financent, parfois d'ailleurs sans le savoir, des sites qui produisent des informations erronées ou mensongères.
Oui, donc une fois qu'on a dressé la liste de ces colporteurs d'Infox, on a voulu voir effectivement lesquels avaient profité sur cette période étudiée, donc de septembre à décembre, de publicités digitales provenant de grandes marques et qui donc de fait avaient soutenu financièrement ce récit alternatif. Et ce qu'on a constaté, c'est que 892 marques avaient financé ces sites. J'étais effectivement déjà venue dans votre émission pour parler de cette problématique. Le financement, vous le disiez, involontaire par des grandes marques de l'écosystème de la mésinformation via la publicité programmatique. Donc, comment est-ce que des marques se retrouvent à financer des sites qui sont connus pour diffuser de fausses informations ? Eh bien, c'est via un système très complexe qui s'appelle la publicité programmatique, qui finalement laisse les marques dans le flou quant aux endroits où leurs publicités sont diffusées. Pourquoi ? Parce que la publicité programmatique, c'est une mise en relation automatisée, une vente aux enchères en fait en direct d'acheteurs et de vendeurs d'espaces publicitaires en ligne. Et donc, les marques, elles ignorent vraiment où se retrouve leur publicité. Et même si elles savaient in fine, si elles avaient la liste des URL où toutes leurs pubs ont été diffusées, bah, il leur serait assez difficile finalement, sans l'aide de groupes comme nous qui évaluons la fiabilité des sites d'information, de savoir si ces diffusions sont problématiques, puisque comme vous le savez, les sites de désinformation, ils ressemblent souvent à des sites d'actualité légitime et il faut vraiment une enquête journalistique pour les mettre à jour. Oui. Mais pour vous donner une idée, et on avait déjà évoqué ce chiffre dans votre émission, ce que ça représente, c'est 2,6 milliards de dollars par an qui viennent financer les diffuseurs de mésinformation via cette publicité programmatique, donc c'est énorme.
Mais les marques concernées ont été alertées par votre rapport. Un documentaire sur le sujet a été produit et pourtant, elles ne semblent pas vouloir agir.
Alors, je ne dirais pas qu'elles ne souhaitent pas agir. Je pense que la prise de conscience chez certaines marques a pu être longue. Il y a eu un documentaire qui a aidé à cette prise de conscience. Je pense que de plus en plus, les marques s'en rendent compte et savent qu'il faut s'y atteler. Aujourd'hui, nous, on travaille avec de plus en plus de marques, avec des agences publicitaires, justement pour protéger les annonceurs annonceurs et puis mettre un coup d'arrêt à leur contribution à ce business lucratif de la désinformation. Mais changer les choses, ça prend du temps, notamment du fait de la complexité de ce système. Donc, pour vous donner une idée, il peut arriver, par exemple, qu'une marque, elle s'attelle au problème via une agence qui va contrôler 80% de ses campagnes, par exemple, mais que 20% de ses campagnes publicitaires échappent, elles, à cette protection parce qu'elles sont gérées par une autre agence. Donc, il faut qu'on continue à se faire ce travail d'éducation sur le sujet. Et petit à petit, je pense que les marques vont de plus en plus s'y attaquer et reprendre la main sur leurs dépenses publicitaires.
Revenons, Chine Labbé, sur les allégations mensongères des partisans de Donald Trump qui sont vigoureusement combattues, on le sait, par le Parti démocrate aux États-Unis. Mais cette désinformation continue de circuler même quand le Parti républicain, le parti donc de l'ex-président Trump, admet qu'elles sont fausses. J'ai lu dans votre rapport que c'était le cas en Arizona, par exemple.
Oui, donc ce que vous évoquez, c'est cet audit mené par les Républicains dans le comté de Maricopa en Arizona, qui finalement en septembre a révélé qu'aucune fraude massive n'avait eu lieu et aurait pu modifier le résultat de l'élection. Mais on a beaucoup de sites de mésinformation qui continuent des mois plus tard à en tordre les résultats et à perpétuer, en s'appuyant sur cet audit, le mythe d'un big lie. Donc parmi les sites qui ont été très actifs sur le sujet, on peut par exemple citer le Gateway Pundit aux États-Unis, qui a publié plusieurs articles sur cet audit, et dans sa réponse à NewsGuard, c'est assez intéressant. Ils nous ont dit qu'ils se revendiquaient à l'avant-garde de la couverture du vol de l'élection de 2020.
Alors, il y a toute la désinformation qui a amené à l'attaque sur le Capitole le 6 janvier 2020, mais il y a aussi, sur certains sites que vous pointez, des infox sur les événements du 6 janvier eux-mêmes. On a évoqué avec Sophie Malibaud tout à l'heure certains sites qui réécrivent l'histoire et continuent de propager des contre-vérités qui divisent profondément la société américaine, mais les propagateurs d'infox Fox ne sont pas uniquement basés aux États-Unis. Vous en avez repéré en Europe également.
Oui, donc rapidement sur le 6 janvier, il y a de nombreux sites effectivement qui réécrivent l'histoire à coups de contre-vérité, comme l'idée que le FBI aurait orchestré l'émeute, que les émeutiers n'étaient pas armés, ou encore qu'ils auraient été invités à entrer dans le Capitole par des agents de police. Et effectivement, ce qui est très inquiétant, c'est que cette réécriture de l'histoire américaine, elle ne se fait pas du tout que sur l'internet anglophone. Même s'ils sont moins nombreux, il y a de nombreux sites européens qui ont crié au vol de l'élection de 2020, qui ont publié des infox sur le 6 janvier et qui continuent à nourrir ce récit alternatif. Donc les récits qui se prépagent aux États-Unis, ils sont exportés de ce côté-ci de l'Atlantique. Et parmi les sites qu'on avait relevés au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en France, en 2020 et 2021, comme ayant relayé des infox juste après le scrutin, la moitié environ partagent toujours des informations erronées sur les États-Unis auprès de leurs lecteurs. Mmh. En France, on en a trouvé 5, par exemple, qui font perdurer ces mythes et qui notamment se penchent et tordent le cou au résultat de l'audit de l'Arizona.
Et toute cette désinformation, bien sûr, entretient la remise en question de la légitimité des scrutins démocratiques.
Oui, la grande tendance, évidemment, qui sous-tend tous ces discours sur le big lie, c'est de remettre en question la légitimité des élections de manière générale, et donc la légitimité démocratique. Donc le risque, évidemment, c'est de voir des sites européens adapter ces récits aux spécificités de nos pays, semer le doute quant à la légitimité de nos propres élections. On l'a déjà vu très nettement en Allemagne, avec les élections fédérales de septembre dernier, avec des sites qui établissaient un lien direct entre l'élection américaine un an plus tôt et les élections allemandes, en parlant d'un avertissement pour l'Allemagne, avec de la même manière des prétendus criminels de gauche qui seraient en train de mettre en place un système de fraude massive. Il faut se rappeler qu'en 2020, on a vu ce phénomène de exportation et adaptation de récits américains en Europe avec le mouvement QAnon. On le voit aujourd'hui avec les infox sur les élections. Les mythes américains, ils s'exportent très bien en Europe et ils arrivent à y trouver un public et à s'adapter au contexte européen et à s'y enraciner.
Et la présidentielle, les législatives françaises qui arrivent dans quelques semaines maintenant pourraient être impactées.
Oui, bien sûr, c'est le risque de voir cette thématique, cette remise en question globale de la légitimité démocratique prendre dans notre pays, dans l'après-présidentielle. On en voit déjà un peu les prémices. En novembre dernier, il y avait un site francophone d'extrême droite qui a publié un article affirmant que la pandémie était en fait en voie de résolution, ce qui était bien évidemment faux, que la décision d'Emmanuel Macron de prolonger le pass sanitaire était le signe de son intention de supprimer des millions de votes lors de l'élection présidentielle d'avril. Juste hier, on a un autre site connu de mésinformation qui a publié un article laissant entendre que les non-vaccinés pourraient ne pas voter en avril et posant la question « sommes-nous toujours en démocratie ?» alors même qu'on le sait, les bureaux de vote ne sont pas concernés par le pass vaccinal. Donc le même risque de voir toute une partie du pays convaincue que l'élection est illégitime, que son résultat est caduque, il existe bel et bien chez nous si ce genre de récit se développe et se propage. Donc il faut s'y préparer et s'en méfier.
Et alors justement, comment va-t-il être possible de riposter ?
Alors nous, chez NewsGuard, on croit beaucoup au pre-bunking. Donc c'est cette alternative au fact-checking qui consiste à alerter les citoyens sur les fausses informations avant même leur diffusion. C'est-à-dire à les alerter sur les colporteurs connus d'un fox pour qu'ils s'en méfient. Alors évidemment, en ce faisant, on ne va pas empêcher certaines personnes convaincues par ces récits de continuer à y croire. Mais on empêchera peut-être, et c'est le but, certaines personnes qui doutent, qui sont incertaines, qui sont dans cette espèce d'entre-deux, de tomber dans le piège des infox. Donc il y a un important travail d'éducation aux médias à faire pour éviter que ce mouvement prenne trop d'ampleur.
Chine Labbé, rédactrice en chef Europe de NewsGuard, qui évalue donc la fiabilité des sites d'information sur Internet. Merci et bonsoir.
Merci à vous.
Voilà, à NewsGuard, je le signale à nos auditeurs, ce ne sont pas des machines, mais des journalistes qui évaluent la fiabilité des sites d'information. Et j'en profite pour signaler que votre classement 2021 met RFI et France 24 dans le peloton de tête des médias les plus fiables. Nous retrouvons maintenant Marin Lefebvre, journaliste à l'AFP Factuel, le site de vérification de l'agence France Presse. Bonsoir Marin.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, vous revenez sur une vidéo un petit peu particulière, dites-vous.
Oui, une sorte de diaporama commenté par une voix aux accents robotiques qui incrimine le philosophe français Bernard-Henri Lévy, dit BHL. Selon cette vidéo, visionnée près d'un million de fois depuis le 18 décembre, il serait un espion français qui fournit des armes aux djihadistes au Mali, leur donne la position de l'armée nationale et transporte même l'or de l'Afrique vers l'Europe. Pour preuve, l'auteur inclut deux photos à ce diaporama tout en énumérant ses accusations. On y voit le philosophe en tenue de ville aux côtés d'hommes noirs armés.
Est-ce que ces photos montrent BHL au Mali ?
Pas du tout. En effectuant une recherche d'images inversées sur Google, on retrouve ces clichés sur les sites de deux magazines français. Dans les deux cas, la légende indique qu'elles ont été prises dans une région de l'ouest du Soudan, le Darfour, en 2007. Nous avons pu contacter le photographe crédité sous ces clichés, Alexis Duclos, et il a confirmé qu'il en était bien l'auteur et que les légendes étaient exactes. La première image, nous a-t-il dit, montre BHL qui discute le 1er mars 2007 avec le commandant Tarada de l'armée de libération du Soudan, ou ALS, le principal groupe rebelle de la région à l'époque. La seconde a été prise le 14 mars de la même année. On y voit Bernard-Henri Lévy s'entretenir avec le chef de l'ALS.
Qu'est-ce que Bernard-Henri Lévy faisait au Darfour à cette époque alors ?
Eh bien, selon Alexis Duclos, le photographe, ce reportage avait pour but de dénoncer et de montrer le massacre des tribus musulmanes de cette région et dans le pays voisin du Tchad par les milices janjaouides. Ces miliciens arabes, montés à cheval, étaient envoyés par l'ex-président Omar el-Béchir contre différents groupes ethniques. BHL a d'ailleurs raconté ces événements dans un article pour Le Monde Afrique, publié à la même époque.
Rien à voir donc avec le Mali, où le contexte militaire est tendu, on le sait, ce qui expliquerait que ce type d'infox se propage facilement.
Oui, ces derniers mois, l'engagement militaire français au Mali, et plus globalement au Sahel, fait face à une hostilité de plus en plus visible. Tout particulièrement depuis cet été, date à laquelle la France a commencé à réorganiser ses forces sur le terrain et à diminuer leurs effectifs. Cela se traduit concrètement par la mobilisation des populations locales, mais aussi par la multiplication des fausses rumeurs sur les réseaux sociaux.
Et parmi cette prolifération d'infox, est-ce que vous rencontrez souvent cette forme diaporama commentée à l'instar de cette vidéo dont on parlait ?
Oui, il s'agit d'un phénomène récurrent. Ces vidéos low cost partagent toutes les mêmes caractéristiques. Une voix off robotique à la syntaxe hasardeuse, un habillage qui imite les chaînes d'info et le tout sous forme de diaporama. Comme pour le clip qui montre BHL, les images qui apparaissent à l'écran n'ont souvent rien à voir avec ce que les auteurs prétendent révéler. Selon plusieurs experts que nous avions interrogés précédemment à ce sujet, cette technique est particulièrement efficace pour propager de la désinformation. Le cerveau est submergé par la superposition des images et du commentaire. Résultat, il est difficile de différencier le vrai du faux dans ces contenus. Ces vidéos sont faciles à fabriquer en masse car elles ne coûtent pas cher et disséminées très largement sur les réseaux sociaux, elles sont souvent utilisées à des fins de propagande. Au Mali par exemple, ces vidéos circulent sur de nombreux groupes Facebook opposés à la présence française dans le pays.
Merci Marin Lefebvre, journaliste à l'AFP Factuel, le site de vérification de l'agence France Presse.
Vérification faite.
Voilà, c'est la fin des Dessous de l'Infox. Merci de votre attention. Vous retrouvez le podcast de toutes nos émissions sur notre site internet. Au générique aujourd'hui, attaché de production Florence Ponce, à la documentation Déborah Lepage, à la réalisation David Brockway, à la présentation
François Bernard.
Qui vous dit bonsoir et à la semaine prochaine sur RFI.